France Inter.
Aujourd'hui, de l'essence dans nos assiettes, raconté par
Guillaume Coudray, journaliste d'investigation.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans l'atmosphère feutrée d'un moulin traditionnel, une symphonie sensorielle accueille le visiteur. L'odeur des graines fraîchement pressées se mêle à la lente rotation des meules. De grands sacs en toile de jute débordent de graines dorées, de tournesol, de lin et de cameline, tandis que des caisses en bois abritent noix, noisettes et amandes. Chaque étape est minutieusement orchestrée, du tri initial qui élimine les graines abîmées jusqu'au nettoyage sur tamis vibrant. Le maître huilier dirige la partition. Le cœur du processus réside dans le broyage, les meules de granit, colosses d'une tonne et demie, tournent avec lenteur, 15 tours par minute à peine. L'huile fraîchement pressée est ensuite transférée dans de grands bacs de décantation en inox. Ce processus naturel, qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, permet aux particules solides de se déposer au fond, laissant l'huile claire à la surface. La patience est le secret d'une extraction qui préserve toutes les qualités nutritionnelles des graines. Mais aujourd'hui, la poésie du terroir a céder la place à une réalité plus prosaïque. Dans les usines modernes, un labyrinthe de tuyaux métalliques a remplacé les meules de pierre. Le bruit assourdissant des machines, les températures extrêmes, l'odeur âcre, les vapeurs qui s'échappent des colonnes d'extraction, tout ici évoque davantage une raffinerie pétrochimique qu'un atelier alimentaire. Car l'Exane est le maître officieux des nouveaux moulins à huile. Dans ces cathédrales industrielles, des centaines de tonnes de graines sont traitées quotidiennement, soumises à un processus chimique complexe, mais d'une efficacité redoutable. Là où les méthodes traditionnelles laissaient jusqu'à 20% d'huile dans les graines, l'Exane permet d'extraire la quasi-totalité des lipides. L'industrie des oléagineux ne laisse pas trop voir au public la réalité de l'extraction. Le mot hexane semble banni, souvent relégué au fin fond des rapports techniques que personne ne lit. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Voici que le pétrole nous promet bien davantage. Cette espèce de miracle dont on n'a pas fini de parler s'est produit dans cette raffinerie de l'Avera. Dans des ballons sans cesse agités et aérés à 32 degrés, une pincée de bactéries mélangée à du pétrole le transforme en protéines. Autrement dit, en beefsteak, ni plus ni moins. Un beefsteak qui aurait un goût de fromage aigre ou de levure, mais parfaitement nourrissant comme le vrai.
Bonjour Guillaume Coudray.
Bonjour.
Du steak fait à partir de pétrole, archive de 1963, et c'est justement un dérivé de pétrole auquel vous vous êtes intéressé, vous qui êtes journaliste et spécialiste des pratiques de l'industrie agroalimentaire. Demain, jeudi, vous publiez le fruit d'une nouvelle investigation qui va faire beaucoup de bruit. Son titre, De l'essence dans nos assiettes, enquête sur un secret bien huilé, toujours aux éditions de La Découverte, c'était le cas de votre premier ouvrage sur les nitrites. L'acteur principal de votre livre, c'est donc l'hexane. Je viens de lire à l'instant les premières lignes de votre ouvrage, un dérivé donc pétrolier très utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Comment l'hexane est entré dans la chaîne alimentaire justement ? Expliquez-nous.
Alors l'hexane, c'est un solvant. Le mot technique, c'est solvant d'extraction. C'est un hydrocarbure. Hein. C'est un produit très proche du carburant ou du white spirit. C'est un produit qui peut être obtenu soit à partir du pétrole, soit à partir du gaz naturel. Mmh. Et à l'origine, l'hexane, donc c'est une partie, hein, un des composants du pétrole brut. À l'origine, l'hexane était brûlé dans les raffineries de pétrole, parce que c'est une substance qui n'est pas très intéressante pour fabriquer du carburant. Mmh. Donc, jusqu'aux années 1930, l'hexane, lorsque un fabricant, un raffineur de pétrole faisait quelques milliers de litres de carburant, eh bien l'hexane était brûlé à l'extérieur des torchères. C'était ce qu'on appelle un naphtha, qui avait peu de valeur, ou alors on l'utilisait parfois comme substitut de la térébenthine, par exemple. À un moment, des pétrochimistes américains ont compris que l'hexane, à cause de sa capacité à dissoudre les lipides, c'est-à-dire à dissoudre la graisse, que l'hexane pouvait être utilisé pour extraire, pour séparer, hein, on utilise le mot extraire, mais l'autre, un synonyme pour être séparé, pour séparer les protéines et les lipides à partir des graines oléagineuses, c'est-à-dire à partir du colza, à partir du tournesol, à partir du soja, et puis à partir de n'importe quelle substance dans laquelle il y a de la graisse.
Et pourquoi ce solvant était préféré à d'autres alors ?
Alors je raconte dans le livre justement, parce que je me suis posé cette question, comment ce solvant est entré dans nos assiettes, et j'ai voulu comprendre quelle avait été la logique des industriels, des chimistes et des toxicologues qui avaient autorisé cet usage. Ouais. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'hexane était survenu d'une part parce que, comme je viens de le dire, il était abondant et très peu cher, puisqu'il y en a dans tous les champs de pétrole, il y a de l'hexane, et on ne savait pas quoi en faire. Et puis surtout, il est très efficace, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir solvant, un pouvoir séparateur qui est très aigu. Et ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai découvert, c'est que avant l'hexane, certains industriels avaient utilisé d'autres solvants. Non pas pour des usages alimentaires, hein. C'était par exemple pour fabriquer l'huile avec laquelle on fabrique du savon.
Ouais. Hein,
ça, par exemple, ça avait révolutionné les usines du savon de Marseille. Pourquoi le savon de Marseille est vert ? C'est à cause du vert des olives, en fait, hein, et à cause des pigments qui sont extraits, notamment par l'hexane. Alors, avant l'hexane, les fabricants de savon avaient utilisé d'autres solvants, donc d'autres produits qui ont cette capacité très forte pour séparer, pour dissoudre les graisses, hein, c'est ça qu'on appelle un solvant. Avant l'hexane, on avait utilisé par exemple du tétrachlorure de carbone, qui était un produit très toxique, mais à l'époque on ne l'avait pas encore compris. Donc ça, c'était une invention française, hein, d'un chimiste français à Pantin. Et puis, on avait utilisé d'autres produits, notamment le benzène, qui lui aussi a un pouvoir solvant extraordinaire, mais qui lui aussi est extraordinairement toxique. Donc à un moment, c'est ce que je raconte dans cette saga, à un moment, les chimistes, notamment américains, se sont dit, tiens, ben, l'hexane, on en a beaucoup, et on va faire des tests dessus, ça marche très bien, ça permet d'obtenir des bonnes quantités d'huile à partir des graines que l'on traite à l'hexane. Et ils ont fait des tests, et les tests à l'époque ont indiqué que l'hexane était neutre, était inoffensif.
Inocuité supposée, donc.
Voilà. Bon, ils ont fait des tests sur des souris, par exemple. Hein. Là, je vous parle des années 30, hein, 1930. Ouais. C'était notamment à Berlin, au Reichsgesundheit. Il y avait donc comme ça des tests de toxicologues très réputés à l'époque. Hein, Karl Bernhard Lehmann, les grands toxicologues de l'époque, sont arrivés à une conclusion qui était double, qui était d'un côté, c'est infiniment moins toxique que les autres solvants que je viens de mentionner, le tétrachlorure de carbone, le benzène, qui sont des cancérogènes avérés. Et au moins, ils se sont dit, bah tiens, ça, l'hexane, ça n'a pas l'air d'être cancérogène.
Donc ça veut dire, Guillaume Coudray, que dans ces années 30, à partir de ce moment-là, les industriels de l'agroalimentaire se sont emparés de l'hexane pour justement l'huile, c'est ça ? C'est de cette façon-là qu'on le retrouve dans nos assiettes ?
Oui. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, ça s'est passé, ça n'a pas été une appropriation immédiate. Hein. Ça a été avant tout autour d'une zone géographique.
Aux États-Unis plutôt au
aux
départ.
Aux États-Unis.
Hein. Chicago, même.
Chicago,
vous citez Chicago.
Très spécifiquement Chicago. Les premiers extracteurs à l'hexane de taille industrielle, c'est la firme ADM, Archer Daniel Midland, aux États-Unis, donc à Chicago, qui a cette idée géniale d'un point de vue technologique de construire des gigantesques extracteurs à l'hexane en utilisant ces tours ces tours qui ressemblent plus, comme vous le disiez dans l'extrait tout à l'heure, à des usines pétrochimiques plutôt qu'aux anciens moulins que jusqu'alors la firme utilisait.
C'est la rapidité du procédé aussi, hein, qui va tout changer.
C'est la rapidité, c'est multifactoriel. Hein, pourquoi l'hexane ? Pourquoi l'hexane est tellement intéressant pour les industriels ? C'est comme vous le dites, Mathieu, parce que c'était très rapide, mais surtout parce que ça permet d'aller chercher dans la graine les 10% d'huile supplémentaire qu'il est difficile d'obtenir par des moyens strictement mécaniques. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas
On va en parler,
chercher,
bien sûr.
Mais il faudrait vraiment pousser sur les machines. Et donc là, ça obtient, on permet, comme c'est chimique, ça dissout simplement, et donc il suffit de dissoudre, et puis on récupère l'huile.
Donc, le berceau de l'hexane, en tout cas pour l'industrie agroalimentaire, ce sont les États-Unis, et puis ensuite, les États-Unis vont influencer l'Europe. À partir de quand ça arrive finalement en France ?
La première, par exemple, pour citer une marque célèbre française qui s'appelle Le Sieur, on sait que les premiers extracteurs qui utilisent des solvants comme ça, hydrocarbonés, sont construits pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord dans les colonies, par exemple à Casablanca, et puis dans l'après-guerre, directement, les premiers extracteurs avec des solvants hydrocarbonés apparaissent dans l'après-guerre immédiat, et puis ils vont se développer parce qu'ils sont tellement utiles, tellement rentables, que ça va faire florès. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque, comme on le disait tout à l'heure, c'était logique pour les industriels. C'était du bon sens, d'une part, parce que les Américains l'utilisaient avec beaucoup de succès, et d'autre part, parce que toutes les garanties toxicologiques et sanitaires paraissaient être présentes, puisque les études des meilleurs experts de l'époque avaient conclu que l'hexane était, comme je le disais tout à l'heure, neutre, inoffensif et surtout stable.
Donc, il y avait des alternatives, c'est ce que vous nous rappelez aussi, avec le pressage mécanique à froid ou à chaud, mais avec évidemment des rendements beaucoup moindres. Les industriels qui utilisent l'hexane parlent de trituration, c'est ça
c'est
le terme ?
C'est le mot technique, oui. Triturer, ça veut dire en fait traiter des graines, presser, c'est un peu le synonyme de moulin moderne.
Guillaume Coudray, aujourd'hui, puisque je rappelle que le titre de votre ouvrage, c'est « De l'essence dans nos assiettes », quels produits contiennent des traces invisibles d'hexane ?
C'est là où il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de produits. C'est que, à la différence de mon travail précédent sur les nitrites, où je pouvais dire globalement, ça ne concerne que les produits de charcuterie, c'est dans seulement cette gamme, ce rayon des supermarchés qu'on va trouver cet additif.
C'est à vous qu'on doit ce travail d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que ça avait été très très médiatisé à l'époque, la présence de nitrites dans la charcuterie, et c'est à vous qu'on doit ce boulot.
Oui, plusieurs organisations ont repris le flambeau avec succès, des politiques. Richard Ramos a beaucoup fait.
Oui, mais c'est vous qui avez fait l'enquête au départ.
Initialement, c'est vrai que c'est moi qui ai passé beaucoup de temps
dans ce dossier. Quels produits contiennent de l'hexane aujourd'hui pour nos auditeurs et auditrices qui, évidemment, aimeraient tout de suite en savoir un petit peu plus ?
Alors, c'est là où il y a le...
Donc, les huiles, évidemment, on va peut-être commencer par ça.
Les huiles, pas toutes les huiles. Pas toutes les huiles. Par exemple, l'huile d'olive, sauf l'huile de grignon d'olive. C'est l'huile qui est faite à partir des résidus de la pression des olives. Oui. Mais globalement, les huiles, les huiles d'olive, les huiles de première pression, ou bien de pression à froid, à chaud, globalement, ne sont pas faites en utilisant un quelconque solvant. On n'a pas besoin. C'est pas rentable pour les fruits comme les olives. En bio aussi, dans la filière bio, on n'utilise pas d'hexane. C'est interdit.
Donc pour résumer la question, l'hexane utilisé en bio, non.
C'est jamais utilisé en bio. Alors, il peut parfois y avoir des fraudes, des contaminations, que sais-je. Mais globalement, c'est en tout cas interdit, d'un point de vue réglementaire, totalement interdit d'utiliser de l'hexane dans toute la filière bio, notamment pour les huiles, mais aussi pour tous les produits issus des oléagineux, la lécithine, les protéines, et puis on en parlera certainement, le tourteau avec lequel on nourrit les animaux.
Alors, quels autres aliments, pour bien comprendre ? Rapidement, faites-nous une petite liste.
Oui, alors, je viens de citer la lécithine de soja notamment. Alors, la lécithine de soja, c'est un ingrédient qui est issu du soja, généralement grâce à une extraction à l'hexane. Ouais. Le problème, c'est que la lécithine de soja, après, on va l'utiliser dans une très large gamme de produits. La lécithine de soja, c'est un petit peu un couteau suisse de l'alimentation moderne, de l'alimentation industrielle. Donc, de la lécithine de soja, vous pouvez en retrouver dans une quantité de produits transformés, de produits alimentaires contemporains.
Les produits véganes, par exemple ?
Par exemple.
Les compléments alimentaires ?
Oui, parce que là aussi, on utilise beaucoup de protéines pour se substituer aux éléments carnés de la viande. Aux protéines carnées, eh bien, on utilise des protéines obtenues par un procédé d'hexane, et très souvent il peut y avoir des résidus de solvants dans certains types de protéines qui peuvent à très faible dose être présents dans les produits.
On va parler évidemment de la toxicité de l'hexane. Rappeler évidemment que ce solvant n'est pas explicitement mentionné sur les produits, hein, c'est tout le problème aussi pour les consommateurs. Et puis vous allez répondre aux questions, aux messages autour donc de cette enquête qui paraîtra demain, de l'essence dans nos assiettes. Vous êtes notre invité Guillaume Coudray, aujourd'hui dans La Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce qui est certain, c'est qu'on met un produit qui est un poison, qui pour moi est un neurotoxique, et on ne le dise pas au consommateur. On regardera sa dangerosité, si j'ai raison ou si j'ai tort, et on verra si on l'interdit, mais à minimum, on doit dire au consommateur qu'on met un produit qui est du pétrole quand il prend un produit alimentaire.
Voilà, les choses sont claires. Dans la bouche du député Modem du Loiret, Richard Ramos, que vous connaissez bien, Guillaume Coudray, vous qui êtes notre invité, à l'occasion de la sortie donc de cette enquête demain aux éditions de La Découverte, de l'essence dans nos assiettes. À partir de quand on suspecte l'hexane, ce solvant, d'être toxique, donc présent dans notre alimentation et donc posant des problèmes de toxicité?
C'est ça le nœud, en fait, du dossier hexane. Hein. Pour moi, c'est ça que j'ai essayé de déconstruire, justement. C'est de comprendre ce qui s'était passé du point de vue de la toxicologie, des sciences, en fait, la science de l'hexane. Qu'est-ce qui a évolué au fil du temps?
Et des erreurs commises, donc.
Et les erreurs commises. Moi, je parle, à un moment, j'ai décidé d'appeler ça le péché originel. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ces fameux laboratoires des années 30 berlinois, on a considéré que l'hexane était neutre, était inoffensif, était stable. Et donc, voilà, ça a été la conclusion, et ça a été publié, republié, c'est devenu la référence scientifique sur laquelle, curieusement, certains industriels se sont longuement appuyés, même une fois qu'on a découvert que c'était une erreur. Bon, ça a permis comme ça cette généralisation de l'hexane. Alors, comment ça s'est passé, la découverte de la toxicité, et où j'ai envie de dire des toxicités, parce que tout à l'heure j'aurais pu mentionner la neurotoxicité, on va certainement parler de l'autre toxicité qui est la reprotoxicité, hein, ces deux toxicités qui sont les deux volets essentiels de la problématique hexane. Eh bien, ça commence à apparaître au milieu des années 60, c'est-à-dire que, et par un chemin assez détourné que je raconte, à l'époque, dans l'après-guerre, on a commencé à avoir de plus en plus de produits à base de plastique, y compris, alors je ne vais pas vous parler d'alimentation pendant quelques secondes, y compris dans la cordonnerie, c'est-à-dire qu'on s'est mis à fabriquer beaucoup de chaussures, de souliers à base de plastique, notamment des petites sandales. Vous savez, les sandales avec lesquelles on va encore à la plage, ben, tout ça, ces sandales en plastique étaient une nouveauté. Et il y avait des ateliers qui fabriquaient ces sandales-là, notamment au Japon. Par exemple, à Nagoya, autour de Nagoya, il y avait des centaines de familles qui, le soir, pour gagner un peu plus d'argent, fabriquaient des sandales en plastique. Et pour coller ces sandales, on utilisait de l'hexane, ou plutôt un solvant à base d'hexane. Alors, je pourrais rentrer dans les détails, vous expliquer qu'avant ça, on avait utilisé du benzène comme solvant, mais que comme ce benzène, on avait découvert qu'il était cancérogène, on s'est dit, à la place, on va utiliser de l'hexane qui va remplacer le benzène dans la colle.
Alors, comment on arrive sur la piste de la toxicité?
Alors, comment on y arrive? C'est très simple. C'est qu'on a commencé à découvrir, d'abord à Nagoya, au Japon, puis dans d'autres villes du Japon, puis en Italie, autour de Florence, puis en France, à côté de Bordeaux, dans des usines, dans des petits ateliers, en fait, de maroquinerie, on a commencé à découvrir que les ouvriers, très souvent les ouvrières, qui utilisaient un solvant à l'hexane, ou une colle avec de l'hexane, avaient souffré de très graves neuropathies. Neuropathie, ça veut dire des atteintes des nerfs. Et donc, ces neuropathies pouvaient atteindre à la fois leur système optique, hein, leurs yeux, c'est-à-dire qu'elles y voyaient mal, elles laissaient tomber les objets, mais surtout, les muscles. C'est ce qu'on appelle des neuropathies en gants et des neuropathies en chaussons. C'est-à-dire que elles ne sentaient plus leurs extrémités. Elles ne pouvaient plus attraper un objet. Perte de sensibilité, par exemple, à la chaleur ou vibrations. Et puis, ça commençait par ça. Et puis, très vite, en fait, ces neuropathies, ce qu'on appelle des neuropathies périphériques, commençaient à se transformer en des atteintes beaucoup plus graves. À ce moment-là, les chercheurs, japonais, italiens, américains ont commencé à explorer la toxicité. Bon, d'abord, il a fallu du temps parce que...
Et associer, pour associer les pathologies aux produits.
Hein. Voilà, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on restait sur l'idée, parce que ça avait été martelé, on restait sur cette idée très forte que l'hexane est inoffensif. Mmh. Et pourquoi il est inoffensif? On supposait qu'il était inoffensif parce qu'il était stable. Stable, ça veut dire qu'il n'allait pas se transformer. Et qu'en gros, quand on inhalait ou lorsqu'on ingérait de l'hexane, c'était le postulat de départ, il allait être excrété dans les urines notamment, inchangé. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Parce qu'on a commencé à découvrir qu'au contraire de cette supposée stabilité, de ce postulat de stabilité, au contraire, tout au contraire, l'hexane se métabolisait. Ce terme technique, je vous le rappelle, c'est se transformer. C'est-à-dire que le foie humain transforme l'hexane, essaie de s'en débarrasser, et le transforme dans une molécule encore plus, beaucoup plus dangereuse qui s'appelle la 2,5-hexanédione. Et celle-ci, elle est féroce. C'est un des plus puissants neurotoxiques que l'on connaît.
Alors, Guillaume Coudray, vous parlez des années 70, fin des années 70, avec des chercheurs finlandais qui montrent des anomalies de la vision liées à l'exposition à l'hexane, et puis donc, ensuite, des centaines d'études qui confirment la neurotoxicité. Vous parlez aussi de l'atteinte du système reproducteur. Ça, oui. C'est l'autre volet des pathologies liées à l'hexane.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une compréhension assez fine aujourd'hui de ce que les médecins appellent la mécanistique, hein, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels l'hexane peut atteindre ces deux systèmes essentiels à la vie des mammifères. Donc, d'un point de vue, au niveau du système nerveux, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, système nerveux, moelle épinière, cerveau, système nerveux périphérique, eh bien, l'hexane, parce que l'hexane a cette capacité à atteindre les lipides, on l'a choisi pour ça, hein, je vous le rappelle, on l'a choisi parce que l'hexane va réagir avec les lipides, va dissoudre les graisses. Or, le système nerveux, comme je le dis dans la conclusion du livre, le système nerveux, le cerveau par exemple, notre cerveau c'est une motte de beurre, hein, je cite un neurologue qui utilise cette formule, notre système nerveux est plein de graisse. Pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup dans le cerveau, beaucoup dans la moelle épinière, et puis surtout beaucoup dans tout notre système nerveux central et périphérique, parce qu'on a une gaine grasse qui s'appelle la gaine de myéline, qui enrobe nos nerfs et qui est indispensable à la transmission nerveuse.
Et donc sur le système reproducteur,
hein. Alors sur le système reproducteur, c'est venu un petit peu après, hein, mais on a compris aujourd'hui, on a une compréhension très fine, pareil, hein, de la façon dont l'hexane et ses métabolites, et notamment la 2,5-hexanédione que je mentionnais tout à l'heure, comment l'hexane va atteindre essentiellement, mais pas que, essentiellement, ce qu'on appelle la spermatogénèse chez les mâles, c'est-à-dire les tubes séminifères dans lesquels tout simplement le sperme, les spermatozoïdes sont fabriqués. Donc on a des descriptions très détaillées parce qu'on a étudié ça in vitro, on a étudié ça chez des animaux, on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien comment l'hexane et ses métabolites vont avoir comme ça cette tendance à tuer à inhiber, hein, l'un ou l'autre, la spermatogénèse. Faire des spermatozoïdes moins mobiles, moins nombreux, de plus mauvaise qualité, et donc une baisse de la fertilité. Et chez les femmes, et chez les femelles, chez les mammifères, chez les femmes, même phénomène, différent bien sûr, c'est au niveau des ovules, c'est-à-dire que l'hexane et ses métabolites vont détruire les cellules qui doivent protéger les ovocytes, hein, les ovules. C'est-à-dire que pour les ovules qui sont donnés à la naissance chez la femme, ont besoin pour éclore, pour germer, d'être protégés et d'être entretenus. Eh bien, les cellules qui protègent les ovules et qui leur permettent de se développer sont directement atteintes par l'hexane.
Alors, puisque l'hexane est présent dans notre alimentation via de nombreux aliments, justement, c'est la question aussi de la dose qui est centrale pour parler de la toxicité. Pour en parler, je vous propose d'écouter Hubert Boquelet. Il est délégué général de la Fédération nationale des corps gras. Voilà ce qu'il nous dit.
Quelque part, c'est un produit naturel. Même s'il est dérivé du pétrole, c'est un produit naturel. Il n'y a pas d'alerte sanitaire sur la présence d'hexane dans les aliments. On parle de résidus techniquement inévitables, donc c'est vraiment des traces, des teneurs infinitésimales. Maintenant, on est au niveau européen dans un exercice de réévaluation, comme l'Europe réévalue régulièrement un certain nombre de composés qui peuvent être utilisés.
Hubert Boclet, donc délégué général de la Fédération nationale des corps gras. Guillaume Coudray, j'aimerais vous faire rebondir évidemment sur ce que nous dit ce monsieur, qui nous laisse entendre en plus qu'on a affaire à un produit naturel, sans problème de dose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des limites qu'impose l'Europe par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on en dit?
Oui, c'est là où il y a un problème fondamental. C'est-à-dire que l'EFSA, l'agence européenne, l'agence sanitaire,
la sécurité des aliments.
Voilà, l'agence de Parme en Italie, donc qui fait autorité sur les instances de régulation nationales, a rendu l'année dernière, en septembre, un épais rapport qui conclut qu'il faut effectivement réévaluer de fond en comble les évaluations initiales qui remontent à plus de 30 ans. Et les doses qui, selon toutes les indications, ne correspondent pas ni aux effets neurotoxiques ni aux effets reprotoxiques, et surtout ne permettent pas de protéger de façon efficace la population. Ce que souligne également l'EFSA.
Donc c'est en cours, ce travail de réévaluation, là, il est en cours déjà.
Il a été initié, donc il a été lancé par le rapport assez dramatique de l'EFSA de septembre dernier, qui lui-même faisait suite à des réévaluations, notamment par une agence allemande qui s'appelle le BAUA, et également par l'ECA, c'est-à-dire l'agence
des produits chimiques
qui avait décidé de rehausser, c'est-à-dire de reconnaître que l'hexane était bel et bien un neurotoxique confirmé, sans l'ombre d'un doute. Cet ensemble, moi ce que j'appelle cet étau qui se resserre autour de l'hexane, fait qu'effectivement, on a une réévaluation en cours qui est bien trop tardive par rapport aux alertes sanitaires qui, elles, se sont succédées au cours des années.
Vous parlez d'un poison invisible, hein. Le terme, vous l'assumez, il est écrit dans votre enquête.
Mais personne ne peut contester...
Le député qu'on entendait tout à l'heure, pareil, l'emploi.
Personne ne peut contester que l'hexane est un poison. C'est un neurotoxique confirmé, c'est un reprotoxique confirmé. C'est sans l'ombre d'un doute. L'hexane est un point qu'il faudrait souligner, puisqu'on parle de l'EFSA, une des questions fondamentales qu'il va falloir traiter aussi dans cette réévaluation, c'est la composition de l'hexane. Parce que ça, immense mystère. C'est-à-dire que l'hexane est un des très rares produits, peut-être même le seul dans la réglementation alimentaire européenne, qui n'est pas défini chimiquement. C'est-à-dire que c'est un mélange. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes sortes de molécules. Il y a une composition minimale de N-hexane, ça s'appelle normal hexane en anglais, mais le reste, c'est des isomères. Alors, désolé de rentrer comme ça dans les détails un peu chimiques, mais c'est des produits d'autres produits. Ça veut dire que l'hexane, une cargaison d'hexane qu'un fabricant va, par exemple, aller acheter en Chine pour alimenter ses usines en France, en Europe, à Berlin, à Hambourg ou ailleurs, ou sur un autre continent, cet hexane va avoir une composition particulière. Par contre, un autre hexane, un hexane qu'on va aller acheter en Italie, par exemple, ou au Canada, ou bien en France, va avoir une autre composition. Donc ce sont à chaque fois des mélanges, et comme le montre la toxicologie contemporaine, évaluer un mélange, c'est donner naissance à toutes sortes d'effets cocktails très imprévisibles et très méconnus.
Toxique invisible, hein, puisqu'il n'est pas mentionné sur les étiquettes, classé auxiliaire technologique et que ses effets donc, apparaissent de façon lente et insidieuse. On va essayer de comprendre dans un instant pourquoi il est resté caché si longtemps et puis quels sont aujourd'hui quand même à la lumière des différentes enquêtes, la vôtre. Radio France aussi avait publié des informations intéressantes à ce sujet cette année. Comment on pourrait essayer de changer les choses et peut-être de voir disparaître ce solvant de notre alimentation. Vous êtes notre invité Guillaume Coudray. Les messages, les notes vocales pour vous sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré.
Des hydrocarbures dans les aliments secs, comme du riz, des pâtes, de la semoule ou des cornflakes, y compris certains référencés comme bio. Dans les rayons, les consommateurs oscillent entre étonnement et inquiétude.
Vous voyez, de l'essence, c'est pas très bon, il me semble, non?
Si maintenant ça touche absolument tout ce qu'on bouffe, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un problème.
C'est après 160 tests réalisés l'année dernière que l'association Foodwatch a alerté les consommateurs, les industriels et la grande distribution.
France 3 en 2016, hein, avec le 19-20 autour des résidus d'hydrocarbures dans certains aliments. Déjà à l'époque, Guillaume Coudray, certaines ONG s'inquiétaient de la présence de ces composants dans l'alimentation.
Alors en l'occurrence, ce n'était pas exactement la problématique Exane. Ouais. C'était des huiles minérales qui filtraient, qui pouvaient par exemple, via les emballages ou via les machines, filtrer dans l'alimentation. Au fond, finalement, les problématiques sont un petit peu similaires. Mais le degré de contamination est très différent.
Sauf que vous étiez beaucoup plus catégorique sur le bio tout à l'heure en disant qu'a priori, il n'y avait pas d'hexane dans le bio, alors que là, dans l'extrait, il est fait mention de présence d'hydrocarbures dans certains produits bio.
Alors, comme l'avait rappelé l'émission de Radio France sur de la cellule d'investigation, il peut y avoir parfois des traces d'hexane oui. dans des produits bio, sans
Pourquoi
doute liées à de la fraude ou bien liées à des contaminations de containers ou bien via des achats en fait de produits qui ont été mal étiquetés. En tout cas, il peut y avoir comme ça des produits bio qui contiennent, mais globalement, en tout cas. En théorie, c'est interdit.
Enquête sur un secret bien huilé. Donc, cette enquête, elle sort demain aux éditions de la Découverte. Guillaume Coudray, vous en êtes l'auteur de l'essence dans nos assiettes. On a parlé des problèmes tout à l'heure de neurotoxicité liés à l'hexane et puis également sur le système reproducteur à la fois des hommes et des femmes. Qu'en est-il des possibles effets cancérigènes de l'hexane? C'est documenté là-dessus ou pas?
Alors, on sait bien, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas cancérigène ou cancérogène, hein, le mot est interchangeable. Ça, c'est clair, hein, il n'y a pas d'effet cancérogène ou il n'y a pas d'effet cancérigène de l'hexane ni de ses métabolites. J'ai envie de dire, c'est peut-être là, c'est un peu curieux, peut-être un peu paradoxal, mais c'est peut-être cela qui explique que, alors que, comme on le disait tout à l'heure, ça fait plus de 50 ans qu'on sait que l'hexane est dangereux pour les mammifères, et bien que finalement, il y a eu si peu d'action et que ça a été si longtemps invisibilisé.
Pourquoi la neurotoxicité ou la reproduction, c'est moins visible que le cancer ?
Ah, de façon incontestable, ça, les sciences humaines ont bien montré, et puis là, l'histoire des sciences et l'histoire de l'épidémiologie a bien montré que c'est vrai. Si vous voulez, le cancer, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, hein, la grande épidémie du XXe siècle. Toutes les inventions, les travaux de Patrice Pinel, tous les travaux en fait sur l'histoire de l'épidémie de cancer montrent que c'est ça qui a focalisé les intentions. Par exemple, au niveau de l'OMS, on dispose en France du CIRC, d'une instance internationale supérieure qui a été créée par le général de Gaulle pour traquer les agents cancérogènes dans l'environnement. Rien de tel sur les maladies neurotoxiques, sur les maladies neurologiques. Donc, pour l'instant, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, néropathie, tout ça n'est pas encore traité avec la même focalisation étiologique, j'ai envie de dire, ça veut dire recherche de cause, avec la même focalisation que sur le cancer.
Guillaume Coudray, il y a l'aspect également environnemental dont il faut parler avec l'hexane et on va écouter tout de suite un extrait de FR3 en 92, une pollution à l'hexane à Saint-Nazaire. Les habitants de la Loire-Atlantique s'en souviennent probablement.
Il y avait du gaz dans l'eau hier, en fin d'après-midi, à Saint-Nazaire. À la suite d'une erreur de manipulation au cours d'une livraison dans la matinée, la société Soja France s'apercevait vers 18h qu'une quantité indéterminée d'hexane s'était répandue dans le réseau d'eau pluviale de la ville. L'hexane est un solvant présentant, lorsqu'il s'évapore, de sérieux risques d'explosion. Aussitôt, la police déterminait un large périmètre de sécurité autour de la base sous-marine. Vers 21h, les pompiers, après plusieurs mesures effectuées dans le réseau, maîtrisaient la situation.
Guillaume Coudray, Saint-Nazaire en 1992. Mais ça n'est pas le seul exemple, hein, loin de là.
Oui, là, on mentionne le risque d'explosion à Saint-Nazaire. Et comme on le rappelle dans cet audio, l'usine d'extraction, elle est en plein Saint-Nazaire, à côté de la base sous-marine, devant le théâtre, devant l'école des Beaux-Arts. Ça veut dire en plein tissu urbain. Hein, c'est assez spectaculaire de voir ça. La municipalité a essayé pendant des années de se débarrasser de cette usine qui est une véritable verrue au milieu de la ville, qui représentent des dangers d'explosion et des dangers sanitaires, mais c'est pas le seul cas. Hein. L'exemple de Dieppe, dramatique, 2018, une usine à Dieppe, pareil, une usine d'extraction à l'hexane qui a explosé, deux morts, deux gars qui venaient vider un extracteur à l'hexane. Et on pourrait faire la liste, remonter plus loin, Bordeaux, Bassins, il y a eu un nombre d'explosions à cause de ces extracteurs à l'hexane.
Chaque année, des centaines de milliers de tonnes d'hexane s'évaporent dans l'air, en contaminant l'atmosphère autour des usines.
autour des usines et puis l'atmosphère que l'on respire. C'est-à-dire que même aux États-Unis, par exemple, il y a eu des études épidémiologiques assez fines qui ont montré que en corrélation avec les rejets d'hexane dans l'atmosphère, eh bien, ça entraîne, par exemple, chez les femmes qui respirent ces rejets, des poids de naissance, chez les femmes enceintes, hein, par exemple, des poids de naissance des bébés, des poids à la naissance qui sont plus faibles, avec des risques de toutes sortes de pathologies qui se développent.
Guillaume Coudray, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'on peut attendre politiquement autour de ce dossier de l'hexane aujourd'hui que vous révélez hein, au grand public? Quel est l'enjeu pour vous de ce livre? C'est de dire qu'il faut tout de suite arrêter. On a des alternatives pour les industriels ou pas?
Alors oui, j'en cite, hein, il y a des usines qui, depuis très longtemps, fabriquent sans recours du tout à l'hexane. Il y a des usines, alors le groupe, c'est je ne vais pas citer des marques, mais je peux en dire quelques-unes. Je mentionne dans l'ouvrage, par exemple, Centre Ouest Céréales, qui a une grande usine qui marche très
sans
bien
hexane,
dans la Vienne.
Hein. Donc, sans hexane,
hein. Simplement de façon mécanique. Excellent produit issu des oléagineux, qui marche très bien, qui tourne très bien.
Mais ça, c'est très minoritaire.
C'est minoritaire, mais y compris le groupe, par exemple Saipol, qui a d'un côté qui a des usines à l'hexane, eh bien, mm-hmm. à d'autre part, fait de l'extraction sans hexane. Il y a toutes sortes. Aujourd'hui, on sait très bien faire avec des techniques qui n'utilisent pas d'hexane. Il faudrait que, le plus vite possible, il faut que les industriels prennent la mesure du risque potentiel qu'ils font courir à la population, à différents niveaux, vous l'avez dit, environnemental, mais surtout sanitaire, et se résolvent, que ces industriels se résolvent à renoncer à l'hexane.
Et donc, sur le terrain politique ou associatif, qu'est-ce qui est en cours actuellement ?
Alors, une mobilisation reste à construire. Hein. C'est un petit peu comme sur le nitrite. Il va falloir, comme ça, rajouter, accumuler des alliances. Une mission parlementaire va être prochainement, d'après les informations que j'ai, lancée par le député Ramos que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a aussi les mobilisations d'organisations qui s'occupent d'alimentation. Bon, c'est peut-être un petit peu prématuré. Le livre sort demain. Et j'espère que, comme avec le nitrite, ça va faire boule de neige et que ça va réveiller les organisations.
Allez, on passe aux questions. Allez, un message vocal de Catherine pour vous, Guillaume Coudray.
Bonjour, merci pour cette émission. Je prends en cours cette émission qui est, somme toute, assez flippante. Et est-ce que vous pouvez redire dans quels aliments on risque de trouver de l'hexane ? Merci.
Alors, Guillaume Coudray, liste rapide, s'il vous plaît.
Oui, mais c'est compliqué, justement, parce qu'il n'y a pas de liste. Comme je l'ai dit, c'est une contamination ubiquitaire. Hein. Ça veut dire que ça peut se retrouver dans énormément de produits, puisque la lécithine de soja, par exemple, extraite à l'hexane, est utilisée dans plein de produits, mais notamment les principaux produits qui sont susceptibles d'avoir des résidus d'hexane. Ça va être, par exemple, certaines huiles, certaines margarines, mais également, par exemple, certains produits laitiers, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les animaux d'élevage consomment eux-mêmes des aliments produits à base de tourteaux extraits à l'hexane.
Les produits pour bébés ?
Oui, on peut en trouver dans certains laits. Certaines organisations ont fait des tests qui ont prouvé qu'il y avait des résidus d'hexane infimes, mais présents, parce qu'il faut souligner, je me permets, l'hexane a cette fâcheuse tendance à se bio-accumuler.
J'en demande, est-ce que les industriels des oléagineux sont au courant de l'hypertoxicité de l'hexane ?
Il faut leur demander.
La fabrique du doute est en place.
Il faut leur demander. Tout à l'heure, vous avez passé un extrait qui indiquait que pour Monsieur Beauclet, c'était un produit naturel et somme toute à très faible dose, sans risque. Il faut leur demander.
Patricia demande : l'hexane peut-il être impliqué dans la baisse de fertilité ?
L'hexane est impliqué, hein, c'est pas peut-il être. À partir du moment où c'est un reprotoxique, comme on l'a dit, chez les mâles, chez les femelles, chez les hommes, chez les femmes, l'hexane joue un rôle dans la baisse de fertilité.
Alain se demande comment se fait-il qu'on se pose seulement aujourd'hui la question de la toxicité de l'hexane ?
Non, c'est pas aujourd'hui hein, qu'on se pose la question. La question, elle a été traitée il y a déjà fort longtemps. La toxicité est acquise depuis Les années 70, la question c'est pourquoi ça fait c'est pourquoi c'est seulement aujourd'hui que effectivement ça vient sur le devant de la scène. Mmh. Eh bien, vous avez mentionné cette notion de fabrique du doute, mais on pourrait aussi dire que, à la différence du cancer, pour relier à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien le cancer a peut-être focalisé toutes les attentions, et les maladies neurologiques comme Alzheimer, comme la sclérose en plaques, comme Parkinson ont peut-être été le parent pauvre de la mobilisation politique et qu'on peut espérer que dans les années à venir, avec la population vieillissante, avec la hausse de ces pathologies, on va considérer qu'il faut absolument faire de la recherche des causes environnementales des maladies neurologiques une priorité.
En tout cas, ce que vous préconisez, c'est l'ouverture d'un débat citoyen et politique sur cette question de la transparence, des alternatives. Vous l'avez dit, il y en a. En tout cas, c'est un nouveau sujet à la fois sanitaire et environnemental que vous dévoilez, Guillaume Coudray, avec cette enquête sur un secret bien huilé de l'essence dans nos assiettes. Ça sort demain et c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu en parler en primeur à La Terre au Carré.
Merci à vous.
Merci à vous.